Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une, ce conte macabre au Sud Kivu. Après des fortes pluies du 4 mai dernier sur Bouchouchou et Nyamukubi, on compte plus de 170 morts, une centaine de disparus et plus de 50 blessés, bilan officiel. Le gouvernement provincial annonce une prise en charge des victimes et le gouvernement central a décrété un deuil national à cet effet pour le lundi 8 mai. Et puis cette proposition du secrétaire général de l'ONU ce samedi à Bujumbura, il estime qu'il faut notamment renforcer les mécanismes de coopération interafricains pour améliorer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et justement, nous recevons en exclusivité dans ce journal le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il prend part au 11e sommet organisé dans la capitale burundaise sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par le Sud Kivu. La catastrophe naturelle du territoire de Calais a fait plus de 170 morts, une centaine de disparus et plus de 50 blessés. Bilan établi par le gouverneur du Sud Kivu qui s'est rendu sur le lieu du drame hier vendredi. Le gouvernement provincial annonce également le début d'une prise en charge en faveur des victimes. Le point avec Emmanuel Elameji Wakabedi.
Le bilan officiel et encore provisoire établi par le gouverneur de province sur place à Calais fait état de 176 corps sans vie tirés des décombres, 57 blessés, au moins 100 personnes portées disparues et plusieurs autres dégâts matériels. Cela fait suite aux inondations et pierres charriées par les rivières lors de fortes pluies qui se sont abattues à Bouchouchou et Nyamukubi. C'était le 4 mai dernier. Le gouverneur Teongwa Bidjekassi annonce ainsi que son gouvernement prend en charge les frais funéraires pour l'inhumation des disparus. Les blessés sont également pris en charge à l'hôpital sur place et les cas graves seront transférés à Bukavu. Déjà ce même vendredi, un bateau aurait quitté Bukavu avec des médicaments, des ustensiles de cuisine, des vivres et bien d'autres pour les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Et parmi les solutions durables, le gouverneur de province annonce la délocalisation des habitants vers d'autres sites hors danger. Et cela, c'est pour lutter contre ces catastrophes devenues périodiques. Côté infrastructure, Teongwa Bidjekassi mentionne l'impérieuse nécessité de réhabiliter la route RN2 coupée à plusieurs endroits dans cette contrée. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Toujours au sujet des inondations de Calais au Sud Kivu, le gouvernement a décrété un deuil national le lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Drapeau en berne en mémoire des compatriotes décédés à la suite de ces inondations. Cette décision a été annoncée hier au cours de la 97e réunion du Conseil des ministres sous la direction du président de la République. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Hirung.
Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations, glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais en province du Sud Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe.
Toujours à propos de cette catastrophe, c'était prévisible et même évitable, c'est en tout cas ce qu'a dit Rigobert Birembano Bahati du département de géographie de l'ISP Bukavu. Il indique qu'un rapport portant sur le danger qui guette les habitants de cette partie du Sud Kivu existe depuis 10 ans maintenant. Ce document avait été établi par un groupe de géographes et autres experts en environnement. Il faut penser à un réaménagement de ce territoire avec délocalisation de la population et surtout penser au reboisement des collines, suggère Rigobert Birembano. Il est au micro de Emmanuel Elameji.
Ce phénomène qui vient d'arriver à Calais particulièrement, c'est pas nouveau. C'est regrettable parce que comme on avait déjà fait les rapports, il ne fallait pas encore qu'on vive la situation que nous sommes en train de vivre ici. Dans la mesure où nous sommes dans une région de montagne, il y avait beaucoup de bois au niveau du sommet des montagnes, mais aujourd'hui avec la forte pression démographique, la tendance est d'aller occuper ces espaces-là. Et avec de fortes pluies, parce que ce sont des pluies diluviennes, dans ce début de mois de mai, il y a de fortes pluies, des dizaines de millimètres d'eau quand ils tombent dans une zone déboisée, il y a beaucoup de ruissellement et ces ruissellements-là vont rejoindre le point le plus bas de bassin versant que nous appelons les rivières, les cours d'eau. C'était la toute première solution, de demander à la population de ne pas monter sur les sommets et les déboisés. Mais l'idéal pour nous à l'est de la République démocratique du Congo, a fait que les fortes densités qui dépassent 400 habitants au kilomètre carré, serait de revoir notre aménagement de territoire, de créer des cités où on devait concentrer la population et de voir dans quelle mesure les espaces qui nous restent le long du littoral pouvaient être occupés par les communautés locales.
Inondation aussi dans la province du Kwilu. La situation est de plus en plus dramatique à Dimalumbu, un des quartiers de la commune de Basoko à Bandundouville, situé à 12 km de la ville. Des inondations provoquées par le débordement des eaux de la rivière Kasai continuent d'occasionner l'écroulement des maisons et autres bâtiments officiels, laissant les habitants sans abri. Le chef de quartier Dimalumbu plaide pour la construction des barrages d'eau aux alentours de la rivière Kasai pour empêcher, selon lui, le débordement des eaux. Plus de détails avec Irène.
Au total, 132 maisons sont inondées et 25 autres écroulées à Dimalumbu après débordement des eaux de la rivière Kasai qui ont quitté leur lit naturel depuis plusieurs semaines. Dans cette localité, les bureaux de l'État sont emportés, les toitures de plusieurs maisons flottent sur les eaux, les centres de santé inondés et les malades éparpillés. Certains habitants font même usage de la pirogue pour circuler sur les eaux à travers les villages. Le chef des quartiers Dimalumbu, Moussi Léonard Lamy, lance ses cris d'alarme. Les maisons qui sont fissurées sont difficiles à compter et elles vont toutes tomber parce que la fondation est déjà détruite. Tous les bureaux de l'État sont sous l'eau. Les centres de santé sont aussi inondés. La maternité également et toutes les femmes ont fui. Alors tous les ménages dont les maisons sont touchées, nous les avons placés dans des familles d'accueil. Je demande aux autorités de nous venir en aide, de nous doter de sacs vides, même plus de 1000 sacs pour que nous puissions boucher tous les trous qui font passer l'eau. Joint à ce sujet, le ministre provincial de l'urbanisme et habitat, Joachim Koumarer, parle des constructions anarchiques déjà interdites. En attendant, il annonce la descente d'une équipe sur terrain pour évaluer les dégâts. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pour améliorer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, il faut notamment renforcer les mécanismes de coopération interafricains. Cette proposition est du secrétaire général des Nations Unies ce samedi à Bujumbura. Il prend part au 11e sommet organisé dans la capitale burundaise sur cet accord cadre. On écoute Antonio Guterres au micro de Fiston Goma Mayabala.
Il faut, à mon avis, renforcer les mécanismes de coopération interafricains, les mécanismes de coopération avec la communauté de l'Afrique de l'Est, avec l'Union africaine, et les Nations Unies sont là pour appuyer ces organisations africaines, et notamment les pays qui ont signé l'accord cadre, sont là pour appuyer, pour que l'accord cadre puisse être, avec la revitalisation qu'on est en train de discuter dans cette réunion, puisse être vraiment un instrument essentiel pour que la paix et le développement puissent s'enraciner définitivement dans la région.
Le secrétaire général de l'ONU est l'invité de ce journal. Signalons par ailleurs que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, vient d'arriver à Bujumbura. Il va participer à la clôture du sommet de cet accord. Direction la province de l'Ituri, une centaine d'élèves finalistes du secondaire à Walendu Djati dans le territoire du Djougou qui doivent se rendre à Bunia pour passer les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 sont bloqués. Ils déplorent le manque de transport et l'insécurité sur le tronçon Nizi-Mwanga où les groupes armés sont actifs. Les notables sollicitent l'intervention du gouvernement provincial pour garantir la sécurité et l'encadrement du déplacement de ces élèves ainsi que la construction des infrastructures scolaires détruites depuis plus d'une année. Ézéchiel Mouzalia.
Les notables de la communauté de Walendu Djati déplorent presque la quasi-inexistence des infrastructures scolaires dans 5 localités dans cette entité coutumière dont Yalala, Petsi, Tilili, Chuja et Limani. Ces infrastructures ont été détruites après les affrontements l'année dernière entre les miliciens de la Codeco et les militaires des FARDC à Bambou en juillet 2021. Certains établissements scolaires ont été pillés, d'autres vandalisés et détruits complètement lors de ces combats qui ont poussé de nombreux parents et leurs enfants à quitter la zone. Trois écoles, le complexe scolaire Koba, l'école conventionnée catholique de Kobu et l'institut CBK ont été délocalisés, indique Paul Matata, chef de Walendu Jatsi. À ce jour, au moins 100 finalistes du secondaire de l'institut Koba, Bambou Mine et Iti qui ont été récupérés de leur milieu de refuge après ce drame poursuivent les cours dans des locaux abandonnés. Paul Matata.
Des finalistes qui devaient aller faire présenter leurs résultats, mais ils n'ont pas un moyen de déplacement. Ils sont ici avec ce qui s'est passé récemment à Mwanga. Ce que je vais demander au gouvernement, c'est de venir à l'aide afin que ces élèves puissent se présenter.
L'insécurité sur les tronçons Bambou, Nizi ainsi que la situation sécuritaire peu rassurante sur la route Mwanga, Lipri vers Bunia ne rassure pas ses élèves. Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Province de Lomami, le calme est revenu ce samedi dans les localités de Benakalobo et Benamkoy, dans les groupements Benamwantanumbi et Benamwadi, à la suite de la présence des éléments de la police nationale congolaise venus de Mweneditu. D'après l'administrateur du territoire de Lwilou, les habitants de ces deux localités se disputent les limites des terres arables. Ils se sont affrontés jeudi et le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs blessés graves, dont un dans un état critique. Esther Ndalafina nous raconte.
D'après l'administrateur de territoire de Lwilou, tout a commencé le soir de mercredi dernier lorsque les habitants de Benamukoi s'étaient rendus au champ pour se partager les portions de terre qu'ils devraient cultiver à la saison culturelle prochaine. Ayant appris cette information, les habitants de Benakalobo se sont organisés pour les attaquer. Un d'eux qui était armé a tiré en direction d'un habitant de Benamukoi qui a rendu l'âme immédiatement. La dépouille mortelle de la victime a été enterrée jeudi dernier. D'autres personnes non encore dénombrées ont été blessées après avoir reçu des balles perdues. Un blessé se trouve dans un état critique. La même source précise qu'après les affrontements, les habitants de ces deux localités ont vidé leur village et sont actuellement dans la brousse. Les éléments de la police sont actuellement visibles dans les deux localités. Signalons que c'est la énième fois que les habitants de ces deux localités s'affrontent. Les dernières décisions de la justice n'ont jamais été respectées par une des parties qui avait perdu le procès, affirment d'autres sources contactées sur place. Esther Ndalafina, Bujimai, Radio Okapi.
Du côté du Haut-Katanga, les jeunes de l'UDPS et de l'UNAFEC sont invités à bannir la violence et à cultiver la paix. L'appel est du vice-gouverneur de province après les affrontements survenus entre ces jeunes le mercredi dernier au quartier Kasapa dans la commune annexe à Lubumbashi. Les responsables des jeunes au sein de ces deux formations politiques dans la province ont aussi demandé à leurs membres de vivre en harmonie dans le respect de l'autorité établie. Jean Gandou.
Au cours de cette rencontre, le vice-gouverneur du Haut-Katanga a demandé aux jeunes de ces deux formations politiques de favoriser l'harmonie entre eux, car très souvent, ils vivent à couteau tiré. Par moments, ils se disputent la gestion des parkings où ils se font payer par les chauffeurs des taxis et taxibus. Ils doivent donc respecter l'autorité établie et éviter la violence et s'abstenir ainsi de troubler l'ordre public. Le responsable de la jeunesse de l'UDPS a lancé un message à tous les jeunes de son parti, leur demandant de quitter les parkings parce qu'ils n'y ont pas été envoyés par leur parti. Tout contrevenant se verra arrêté par le service de sécurité, a-t-il conclu. Pour son collègue de l'UNAFEC, il est inadmissible que les jeunes de son parti s'illustrent par la violence. Il les invite donc à la vigilance, car tout porte à croire qu'ils sont déjà infiltrés par des personnes non autrement identifiées, qui n'ont qu'un seul objectif, ternir l'image du parti. Il a demandé donc aux uns et aux autres à bannir la violence et à privilégier la paix. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que la Cour d'appel du Tanganyika siégeant en matière administrative au premier degré ordonne la suspension des arrêtés provinciaux portant nomination des membres du gouvernement provincial du Tanganyika. Tel est l'arrêt rendu hier à Kalemie par la Cour d'appel du Tanganyika dans l'affaire qui opposait Irène Banze, ancienne ministre provinciale du Tanganyika, à la gouverneure de province Julie Ngungwa. Signalons que cet arrêté avait remanié le gouvernement provincial du Tanganyika. Explication Paulin Munanga.
La Cour d'appel du Tanganyika ordonne la suspension des arrêtés provinciaux controversés numéro 029 et 030 signés le 17 avril dernier par la gouverneure du Tanganyika portant nomination des ministres et commissaires généraux du gouvernement provincial. Pour rappel, le 24 avril dernier, l'ancienne ministre provinciale de Mines du Tanganyika avait adressé une correspondance à la gouverneure pour contester l'arrêté provincial qui venait de l'évincer du gouvernement. Irène Banzé avait souligné que cet arrêté contenait des irrégularités. C'est notamment le fait que l'arrêté ne présentait pas les raisons substantielles ou les motifs incidentiels des droits et des faits matériels probants en faveur notamment de sa mise à l'écart comme ministre provincial de Mines. En outre, elle a fait remarquer qu'il y avait dans cet arrêté la violation du principe de notification devant la faire connaître la décision qui la concernait. Ainsi, face à ces irrégularités soulevées, Irène Banzé avait saisi la justice. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Environ 9700 personnes ont traversé la frontière vers la Centrafrique depuis le Soudan voisin où des combats entre armées et paramilitaires en guerre pour le pouvoir font rage depuis 21 jours, a annoncé vendredi le bureau de coordination humanitaire de l'ONU au Tchad en Centrafrique. Quelques 9700 personnes, dont 3460 rapatriés centrafricains, ont préventivement traversé la frontière du Soudan et sont hébergés par des familles d'accueil ou installés dans des campements spontanés dans la ville d'Amdafo. Frontalière du Soudan dans le nord de la Centrafrique. Leur nombre devrait augmenter à mesure que l'enregistrement se poursuit, a indiqué OCHA dans un communiqué. L'organisation indique également que des hauts responsables humanitaires et gouvernementaux se sont rendus à Amdafok afin d'évaluer la situation dans cette région inondable et dont l'accès devrait être très limité après le début de la saison des pluies, s'inquiète OCHA.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Il s'exprime sur la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Il prend part au 11e sommet organisé dans la capitale burundaise sur cet accord cadre. Antonio Guterres s'entretient exclusivement avec Fiston Ngoma Mayabala.
Bonjour, monsieur le secrétaire général des Nations Unies.
Bonjour.
Antonio Guterres, vous êtes en mission à Bujumbura. 10 ans après, quel bilan les Nations Unies dressent-elles de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs?
Je crois qu'on a fait des progrès, c'est vrai, mais je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a énormément à faire. Et surtout notre engagement avec le peuple congolais. Le peuple congolais a beaucoup souffert à cause des différents groupes armés, des terroristes de l'ADF, maintenant de l'M23 et des exactions commises par l'M23. Alors, il faut mobiliser toute la communauté internationale et là, le groupe des pays des Grands Lacs a un rôle essentiel, la communauté de l'Afrique orientale a un rôle essentiel, l'Angola joue un rôle essentiel. Il faut que les Nations Unies appuient à fond des initiatives africaines pour aider à la solution des problèmes qui continuent à créer des difficultés énormes pour les Congolais de l'Est du pays.
L'accord cadre d'Addis Abeba, dans l'un de ses articles, exige aux membres la non-agression et le non-soutien des groupes armés pour déstabiliser un pays voisin. Il se trouve que le phénomène du M23 est une claire violation à cette disposition. Que peut faire l'ONU pour réparer cette relation brisée entre Kigali et Kinshasa?
Nous appuyons à fond les initiatives de Nairobi et de Luanda. Et c'est en concrétisant tout ce qui a été accordé dans ces initiatives et en garantissant que tous les acteurs font exactement ce qui est établi dans ces deux initiatives que nous pouvons résoudre le problème. Et ça passe naturellement par le cantonnement, le retrait, le cantonnement de l'M23 qui ne doit plus être un facteur de perturbation de la vie de la RDC.
Vos propositions pour améliorer la mise en œuvre de cet accord cadre?
Il faut, à mon avis, renforcer les mécanismes de coopération interafricains, les mécanismes de coopération avec la communauté de l'Afrique de l'Est, avec l'Union africaine, et les Nations Unies sont là pour appuyer ces organisations africaines, et notamment les pays qui ont signé l'accord cadre. Nous sommes là pour appuyer, pour que l'accord cadre puisse être, avec la revitalisation dont on est en train de discuter dans cette réunion, puisse être vraiment un instrument essentiel pour que la paix et le développement puissent s'enraciner définitivement dans la région.
Antonio Guterres, merci beaucoup.
Le secrétaire général des Nations Unies qui prend part au 11e sommet organisé dans la capitale burundaise sur l'accord cadre d'Addis Abeba répondait exclusivement aux questions de Fiston Ngoma Mayabala, notre envoyé spécial sur place. Ainsi prend fin ce journal. coordonnée par Piroué Lamenji, supervision de Alain Rungmushinj, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci.